Ça va bien? Hey, ça s'en vient. Encore une semaine à geler, puis après ça, c'est ça que je me dis. Là. Je sais pas si c'est de la pensée positive, mais je me dis, une semaine, après ça, c'est fini, ça commence à réchauffer. Ça va faire du bien. Cette année, il me semble qu'elle est longue. Hein? Il fait froid longtemps. On a hâte de mettre une coupe de bûche là-dedans. Ce matin, on va faire quelque chose de particulier. On continue notre exposé sur l'Épître aux Romains, sur la lettre aux Romains, mais je vais faire quelque chose que je fais à peu près. En fait, je me souviens pas avoir déjà fait ça. On va couvrir une large partie quand même, et pourtant je vais me concentrer seulement sur les 6 premiers versets. D'accord? Alors, Jérémie va nous conduire dans ces 6 versets-là, on va les lire dans quelques instants, mais je veux juste vous expliquer, vous mettre en contexte. Donc, Jérémie va nous lire Romains 3, 21 à 26, et pendant l'exposé, je vais me concentrer sur ces versets-là, et la semaine prochaine, on va être rendu dans Romains 5. Ça va? Donc, ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, cette semaine, c'est aller lire la balance de ce passage-là jusqu'à Romains 5. Il y a une raison particulière pour laquelle je fais ça, c'est que les versets qu'on va couvrir ce matin, selon moi, selon plusieurs enseignants, c'est vraiment le cœur de la lettre aux Romains. D'accord? C'est un passage d'une densité incroyable. L'Évangile est là, tout entier, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et ensuite, ce que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il va défendre ce qu'il vient d'affirmer. Donc, il fait un argument, il fait une démonstration pour dire, effectivement, ce que je viens de dire là, c'est bien ce que toutes les Écritures enseignent à partir de l'Ancien Testament, voire même de la foi d'Abraham. Et si j'avais couvert tout ça ce matin, bien, j'aurais pas pu me concentrer comme il faut sur ce passage. Et on a fait le choix de couvrir Romains un certain nombre de semaines. Alors, plutôt que la semaine prochaine de ressasser un petit peu tout ça et puis de revoir l'argument, j'ai décidé de vous laisser lire la suite. Si on fait un bon travail ce matin, si je fais un bon travail avec l'aide de Dieu, vous allez lire la suite puis vous allez voir que c'est juste simplement une démonstration qu'il est en train de faire. C'est bon? Soyez pas surpris, c'est volontaire. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, ce matin on se penche sur ta parole et... Toute ta parole, Seigneur, est inspirée par toi, est extraordinaire, mais dans ce bref passage d'une densité incroyable, Seigneur, il y a le plus pur évangile, vraiment la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes, Seigneur, se trouve toute là dans ce passage et je veux invoquer ta grâce, Seigneur, pour que je puisse exposer ce passage avec intelligence, Seigneur, qu'on puisse bien saisir ton message pour nous. Je te prie, Seigneur, de venir aussi nous accompagner par ton Esprit Saint. Nous croyons profondément, Seigneur, que ton Esprit est ici au milieu de nous. Et si déjà nous croyons en toi, en nous, pour éclairer, Seigneur, notre intelligence, notre cœur, afin que ces vérités-là soient vie aussi en nous. Non seulement des idées extraordinaires sur toi, de belles paroles qui nous parlent de toi, Seigneur, mais une vie profonde en nous. Et je te prie ce matin, Seigneur, par ton Esprit Saint, de venir appliquer ces vérités dans le cœur de tout le monde dans cette salle, Seigneur. Viens l'appliquer dans le cœur de celui qui n'a pas encore tout à fait saisi l'Évangile. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de son cœur afin qu'il saisisse la beauté, Seigneur, de ton amour, de ta justice et de ce don gratuit que tu offres aux hommes. Et à tous ceux et celles qui ont déjà saisi l'Évangile, Seigneur, viens appliquer ces vérités afin que nous ne vivions pas la vie chrétienne comme une religion, mais au contraire, fermement ancrés, appuyés sur cette justice qui nous est donnée par Jésus, Seigneur, que nous vivions cette foi, cette communion avec toi dans une grande liberté, suivant une loi de liberté, Seigneur, non une loi qui condamne. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, on va écouter ensemble la parole de Dieu.
Ce matin, le passage biblique est tiré du livre de Romains, au chapitre 3, du verset 21 à 26 dans l'édition Louis II. Donc, Romains au chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Merci, Jérémie. C'est l'histoire d'un gars qui avait décidé qu'il allait être inscrit dans le livre Guinness, des records Guinness pour le plus grand exploit de tous les temps. Qui ici s'est déjà rendu à Niagara Falls, a déjà vu de ses yeux les chutes de Niagara? Okay, les autres, vous avez des devoirs à faire, c'est bon? Vous ne pourrez jamais saisir l'illustration que je vais vous donner aujourd'hui de la même manière que les autres. Les chutes de Niagara, c'est extrêmement impressionnant. C'est une des chutes les plus larges au monde. Le débit d'eau qui tombe là, on dit environ 2800 mètres cubes à la seconde d'eau qui tombe de ces chutes-là. C'est phénoménal de se trouver devant les chutes. Et plus on s'approche, moins on s'entend, puis plus on est saisi par la splendeur de la puissance qu'il y a là. Et ça a toujours fasciné les gens. Donc, à travers les années, il y a des gens qui ont voulu relever des défis complètement débiles, je m'excuse, mais vraiment fous. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient faire le saut dans ces chutes-là. Vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a, je crois, 14 personnes jusqu'à présent qui se sont lancées en bas des chutes. C'est totalement illégal. Donc, c'est peut-être pas le projet à faire cet été pour vos vacances. Mais, donc, on a cette dame-là ici, Annie Edson, qui est l'une des premières qui a fait le saut, non pas à cet âge-là, d'accord? Plus jeune, enfermée dans son baril et qui en est sortie pratiquement indemne, sans aucune blessure. Plusieurs sont morts, d'accord? Mais donc, on a des gens comme ça qui, fascinés, ce monsieur-là a fait le saut dans ce... Vous voyez la poque qu'il y a là, sur écoutez, c'est complètement fou. D'autres ont décidé, fascinés par les chutes, de traverser sur un fil de fer. Alors ça, c'est Monsieur Blondin, si vous avez déjà entendu parler de son histoire, qui a traversé, je crois, plus d'une fois, je crois deux fois, qui a marché au-dessus des chutes en marchant sur un fil de fer. Alors mon histoire, c'est l'histoire d'un gars qui dit « Ouais, bon, OK, puis après. » Puis il dit « Moi, j'aimerais ça faire plus que ça, sauter en bas des chutes, enfermé dans un baril. » C'est hot, c'est assez impressionnant. Marcher au-dessus des chutes, c'est pas mal impressionnant. Moi, je veux faire quelque chose de plus grand que ça. Je suis un expert en natation. Je maîtrise toutes les techniques de natation. Je ne m'essaierai même pas à faire des démonstrations. Je suis tellement pourri. Ça me prend un masque, puis un tuba, puis des palmes pour m'amuser dans l'eau. D'accord? Alors, oubliez ça. Je n'essaierai même pas de faire les techniques. Mais lui, il dit, moi, je vais faire mieux que tout le monde. Grâce à mes techniques, moi, je vais remonter les chutes à la nage, d'accord? Et donc, à force d'excellence et de perfection, à force d'avoir une technique absolument extraordinaire, je serai ce saumon qui a réussi de manière unique à remonter les chutes du Niagara et me rendre au sommet. À mon avis, tout être humain, tout homme, toute femme qui prétend, à force d'excellence, de perfection, de travail sur soi, à réussir à remonter et atteindre la justice de Dieu pour se présenter dans la présence de Dieu, je vais peut-être insulter du monde ce matin, mais est aussi imbécile et rêveur utopique que la personne qui aurait décidé qu'elle allait être inscrite dans le livre des records Guinness en remontant la chute de Niagara à la nage. Ce matin, on va voir ensemble qu'en une seule personne, en un seul acte, la justice et l'amour de Dieu sont réconciliés afin que nous soyons sauvés. Et cela t'est offert gratuitement à saisir simplement par la foi. C'est vraiment un passage extraordinaire où on trouve dans ce passage-là, dans ces six versets-là, tout l'Évangile est là. L'évangile, je le rappelle, c'est un mot qui nous vient du grec « evangelion », qui veut simplement dire « bonne nouvelle ». L'apôtre Paul commence sa lettre aux Romains en nous disant qu'il veut aller annoncer aux chrétiens de Rome et par le fait même que les chrétiens puissent l'annoncer aux gens autour d'eux, la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu. Et donc, il prépare le terrain déjà avant qu'on arrive à ce passage-là en faisant la démonstration, je pense de manière très, très, très convaincante, que la justice des hommes ne vaut pas grand-chose. Lorsqu'on parle de justice, on parle d'être juste, d'être une personne droite et intègre. Et donc, Paul fait la démonstration, c'est ça qu'on a vu jusqu'à présent, que l'être humain a beau, à travers la philosophie, à travers une rigueur personnelle, à travers des démarches personnelles d'auto-examen, à travers toutes sortes de religions, à travers de l'ascétisme, en étant très, très pieux puis très sévère dans sa religion, l'être humain a beau s'appliquer de toutes ses forces, jamais l'être humain ne pourra atteindre une justice comparable à la justice de Dieu. Et en fait, Paul va plus loin que ça. Il dit justement, plusieurs des hommes ont simplement renoncé à essayer d'être justes. Ils ont décidé de se vautrer dans toutes sortes de choses puis dire « oublie ça, ça n'existe même pas. Moi, je vais suivre toutes mes passions. Les plus vicieux de mes vices vont devenir mes plus grandes passions. Je vais les vivre publiquement. Je vais faire des films là-dessus. Je vais écrire des romans là-dessus. Je vais faire des millions avec ça. » Dans toutes sortes de tons de gris, par exemple. Mais d'autres ont décidé d'adopter des religions, puis ils se sont dit « non, 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 moi je vais être un homme droit, un homme intègre. » Et Paul fait la démonstration que ces hommes-là se condamnent eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes pêchent de toutes sortes de manières dans leur cœur, et bien souvent par hypocrisie, et deviennent des juges à cause de leur religion, se positionnent, se placent en juge des autres hommes sur la terre, et sont par le fait même doublement condamnés, parce qu'ils commettent les mêmes fautes, mais en plus de ça, prétendent ne pas le faire et donc jugent les autres. Et on arrive à cet endroit-là où Paul a fait toute cette démonstration. Si on relit brièvement ensemble les versets 19 et 20, Romains 3, 19 et 20, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et donc, Paul, ce qu'il nous dit, c'est que toute la loi qu'on a dans la parole de Dieu, qu'on a dans la Bible, même si elle est pure et sans tache et droite et nous montre la voie qu'on devrait suivre, dans les faits, elle devient une espèce de pédagogue, parce que déposée dans un cœur comme le nôtre, un cœur pécheur, un cœur qui est souvent tenté justement de pencher du côté sombre de la force. Bien, la loi devient plutôt un juge. C'est un révélateur, c'est un miroir qui met en lumière l'état de notre cœur tout simplement. Une des difficultés qu'on a lorsqu'on commence à entendre l'Évangile, lorsqu'on commence à méditer sur Dieu, j'ai commencé à aborder ça la semaine dernière avec vous, c'est pas le cœur de ce que Paul fait ici, mais Paul prend pour acquis quelque chose parce qu'il s'adresse à son époque. Puis moi, j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu à une autre époque, à une autre société. Et il y a quelque chose qui était évident pour les gens de l'époque qui l'est moins pour nous aujourd'hui. Voici comment je l'ai résumé. La justice de Dieu n'est pas un caprice, mais l'une de ses plus grandes vertus. Lorsque Paul s'adresse à ses contemporains, l'idée d'un Dieu qui est juste, l'idée d'une justice qui existe vraiment, de quelque chose qui est une loi universelle qui détermine le bien et le mal, et d'un Dieu qui va juger ce bien, selon ce bien et ce mal de manière impartiale et parfaite, cette idée-là était acceptable et reçue. À notre époque, à nous, on joue avec ce concept-là, puis on se dit, ben, est-ce qu'il y a vraiment une justice? Est-ce que dans le champ de la moralité, on peut appliquer une règle aussi claire et ferme qu'on peut l'appliquer dans le champ, admettons, de la science? Où on va dire, bien, une fois qu'on a fait une démonstration scientifique, on peut dire que quelque chose est juste ou injuste, faux ou vrai, sur la base d'une démarche scientifique dont on peut faire la démonstration. Et lorsqu'on arrive dans le domaine de la moralité, bien, aujourd'hui, grand nombre de gens disent « Non, pas tout à fait. Pas vraiment. C'est plutôt quelque chose qui va découler d'un consensus social. » C'est faux. Le problème qu'on a, c'est que lorsqu'après ça, on commence à s'interroger sur Dieu, puis on commence à lire la Bible, puis on commence à connaître Dieu, on fait une projection. Parce que chez nous, dans notre expérience à nous, dans notre cœur à nous, c'est très relatif la justice. Voyez-vous, dans notre expérience humaine, dans nos rapports les uns avec les autres, c'est comme s'il y avait une bourse de la justice. Il y a une bourse de la justice de la même manière qu'une bourse en économie. Et puis, on va transiger des actions dans cette bourse-là. Et puis lorsque je suis en rapport avec mon épouse, avec mes proches, avec les gens autour de moi, avec le policier avec qui je vais parler, avec les autorités, c'est une grande bourse de la justice. Puis, plus je lis les journaux, plus je vois bien qu'il y en a qui sont plus efficaces que moi pour aller transiger dans cette bourse de la justice-là. Ils en donnent, ils en laissent, ils tirent leur épingle du jeu, puis ils ont de l'air des gens qui sont bien. Mais dans le fond, c'est juste qu'ils sont plus habiles pour aller négocier dans ce système-là. Et individuellement, sur le plan personnel, dans nos rapports les uns avec les autres, c'est un petit peu ça, je t'en donne, je te concède, regarde, t'as fait ça, je comprends, dans le fond, tu sais, ouais, c'est vrai, si j'avais été à ta place, puis si je suis Clément, peut-être que la prochaine fois, il va l'être avec moi, après tout, il faut quand même qu'on fonctionne ensemble. Donc, on transige à la bourse de la justice, voyez-vous, suivant les penchants de notre cœur sur le moment, suivant la nécessité du moment. C'est ce qui fait qu'il y a une espèce de cynisme profond qui s'installe dans le cœur humain parce qu'on dit « oui, bon, un policier, oui, bon, une autorité, oui, bon, un premier ministre, oui, bon, je me suis parti de business, la loi, la justice. » C'est surtout une question de ne pas te faire pogner. C'est surtout ça. Et on fait une projection. On projette cette réalité-là de notre expérience sur le plan personnel, sur le plan de notre société, et on projette ça sur la personne de Dieu. Et là, on se dit, mais Dieu est comme ça. Alors, lorsqu'on arrive devant la nécessité qui nous est dite ici, qu'il y ait un prix à payer pour que la justice soit satisfaite, bien, on se dit, non, mais c'est une grande bourse, cette affaire-là, puis c'est un... Take and give, t'en prends, t'en laisses, t'en donnes, on échange tout ça, puis Dieu, à la fin de tout ça, il va essuyer la tablette de tout le monde. Puis, et donc, ce que je vois, ce que j'entends souvent lorsque je parle avec des gens, c'est qu'on voit Dieu en définitive comme une espèce de potentat hyper puissant, une espèce de dictateur universel qui, lui, a le contrôle ultime de la bourse de la justice. Il en tient qu'à lui, ce n'est qu'un caprice de sa part s'il tient à juger nos actions. Il n'en tient qu'à lui de faire preuve d'une grande miséricorde et d'effacer tout ça. Puis en définitive, je veux dire, après quelques millions d'années là, dans l'éternité, il effacera tout ça. C'est de la projection qu'on fait, les amis. Si Dieu est comme ça, il n'existe pas. Si Dieu est comme ça, il est vraiment une projection de nous-mêmes. Il te ressemble pas mal, Dieu, s'il est comme ça. C'est vrai, tu as raison. Je prie pour qu'il ne soit pas comme ça et je prie pour que ce ne soit pas un être semblable qui soutienne l'univers, qui soit derrière l'existence de l'univers, parce qu'on est vraiment, vraiment, vraiment mal pris. Ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste par nature. Ce n'est pas un caprice de Dieu, il est juste dans ce qu'il est de plus intime. C'est l'une de ses plus grandes qualités. Autrement, il n'est pas Dieu. N'importe quel philosophe qui essaie d'imaginer comment serait Dieu s'il existait, admettons qu'il n'y croit pas, va aboutir à cet endroit où il va dire, si Dieu existe, si Dieu devait exister, il serait absolument parfait. Et s'il était parfait, la sainteté, la justice, la droiture, l'amour, qui sont parmi les plus grandes vertus possibles. Je veux dire, si vous pouviez vous assurer que toutes les autorités qui sont placées au-dessus de vous étaient des êtres parfaitement justes, est-ce que ça ne vous encouragerait pas à construire cette société-là? On est capable d'imaginer sur le plan humain que l'une des plus grandes vertus, c'est la justice et la droiture. Mais les philosophes eux-mêmes qui essaient d'imaginer Dieu, peut-être sans croire en lui, puis se disent, si Dieu existait, s'il existait, il faudrait qu'il soit parfait. S'il était parfait, il serait parfaitement juste. Lorsque Dieu décide de faire reposer son amour sur un être humain, ce n'est jamais suivant la justice de cette personne-là. Lorsque, dans mon rapport avec Dieu, j'ai l'impression que je suis en train de transiger avec lui puis que je pourrais satisfaire à sa justice par ma piété, par ma religiosité, j'ai absolument rien compris. Laissez-moi vous lire un passage dans Deutéronome, dans l'Ancien Testament, alors que Dieu s'adresse à son peuple. Voici ce qu'il leur dit. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, parlant des nations, Dieu leur a promis de les conduire dans une terre promise et il va y avoir des nations qui sont là que Dieu est en train de juger par le bras d'Israël parce qu'ils ont eux-mêmes rejeté Dieu. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite à leurs ancêtres. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. » Dieu dit, si je transigeais avec vous sur la base de votre justice, vous êtes faits, les boys. Ce n'est pas sur la base de votre justice. Dieu ne joue pas. L'être humain, chacun d'entre nous, chaque jour dans nos rapports avec les gens, dans nos rapports avec la société, on transige à la bourse de la justice, puis on essaie de faire des « take and give ». Dieu ne joue pas avec la justice. Dieu est juste. S'il n'est plus juste, il n'est plus Dieu. Deux brefs passages tirés des psaumes. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Un autre passage. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Alors, si tu es en cheminement, tu es en train de chercher Dieu, et à quelque part dans ta vision des choses, tu te dis, écoute, je peux y arriver. Je sais que je ne suis pas parfait. Je ne crois pas que Dieu me demande la perfection. Et je crois qu'à force d'effort, je peux y arriver à satisfaire la justice de Dieu. Tu dois saisir. Pour connaître Dieu, tu dois saisir que tu es engagé dans une voie aussi folle que celle de remonter à la nage les chutes du Niagara, parce que tu es engagé dans une voie où tu as décidé que tu allais mesurer ta justice avec la justice de Dieu. Puis tu allais arriver devant lui, puis tu allais négocier avec lui, en disant, écoute, vois tous mes efforts, peut-être que je n'arrive pas tout à fait sur la coche, passe par-dessus. Si tu ne passes pas par-dessus, ce serait un caprice de ta part. Ce n'est pas un caprice de la part de Dieu. Il est l'intégrité même. Et c'est ça qui nous rassure en définitive de savoir qu'un jour, au milieu de la folie, de ce jeu de la bourse, de la justice qu'on joue tous les jours entre nous, un jour, Dieu va paraître, va mettre en lumière toutes les injustices et va juger parfaitement. Tant que je n'ai pas saisi ça, je ne peux pas saisir l'Évangile. Je voudrais bien te sortir un violon, puis te faire la sérénade, puis dire « Dieu, c'est un grand papa bonbon qui va juste comme effacer ton ardoise au complet, cleaner ta slate au complet. » Ce serait un faux prophète qui est en train de te prêcher un faux évangile qui dit exactement comme les faux prophètes du temps de Jérémie, paix, paix, alors que Dieu est en train d'accumuler une montagne de jugements parce qu'un jour, Dieu va juger ta vie parfaitement. selon la justice, selon lui-même, selon sa justice. Et voyez-vous, ce que je vois apparaître dans ce passage-là ici, c'est la jonction. C'est la rencontre entre deux des plus grandes vertus de Dieu. Deux des plus grandes qualités de Dieu. Je pourrais presque dire que dans l'Évangile à la croix, je pourrais presque dire que Dieu se réconcilie avec lui-même. Parce que à la croix, la justice et l'amour de Dieu sont réconciliés. Parce que sa justice va être satisfaite et son amour va être libéré pour pouvoir aimer des injustes. Je vous relis le passage brièvement. Romains 3, 23, 26. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. » Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Et ici, Paul est en train de faire allusion à tout l'Ancien Testament où par un acte de foi qui était illustré par le sacrifice d'animaux, par un acte de foi, le peuple d'Israël croyait que Dieu leur pardonnait leurs péchés, mais le sacrifice des animaux n'était pas une vertu suffisante pour apporter ce pardon-là. Ça prenait le sacrifice d'un être pur, juste, du Fils de Dieu. Et donc, c'est à ça qu'il est en train de faire allusion ici. Montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Deux mots que vous devez apprendre, vous devez comprendre le sens de ça, afin de comprendre l'Évangile, non seulement pour accueillir l'Évangile dans votre cœur puis être vous-même justifié, mais pour grandir dans l'Évangile aussi. Deux mots qui sont précieux pour commencer la vie chrétienne puis pour grandir dans la vie chrétienne. Rédemption, propitiation, les deux sont là. Verset 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Le terme qui est utilisé ici parle de rachat. D'accord? Et donc, l'idée, c'est que le droit de la justice doit être satisfait. Aujourd'hui, dans notre système de justice, de plus en plus, on parle de réhabilitation. Et la notion de rachat est encore là. L'idée qu'un criminel doit rendre à la société, doit payer d'une certaine manière sa faute, c'est encore présent, mais ce l'est de moins en moins. Ce qu'on va parler plutôt, c'est de réhabilitation. Et on comprend ça, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de justice divine, s'il n'y a pas de justice réelle, si ta justice et la mienne, c'est plutôt une question de est-ce qu'on peut cohabiter ensemble, mais c'est plutôt une question de réhabiliter un individu afin qu'il puisse cohabiter avec le reste de la société. Il n'y a pas de droit de justice à payer. Mais si vraiment la justice existe, si vraiment un jour justice doit être faite, si vraiment un jour les millions de morts dans l'Holocauste juif de la Deuxième Guerre mondiale, si un jour quelqu'un doit rendre compte pour ça, si un jour tous les enfants qui sont massacrés dans le monde, toutes les femmes qui sont violées dans le monde, si un jour quelqu'un doit rendre justice, c'est pas simplement un programme de réhabilitation qui va être satisfait. C'est un droit de justice qui va être payé. C'est ce mot-là qu'il y a ici, c'est ce rachat de justice. Ce n'est pas vraiment clair, un rachat qui est payé à qui. Je ne pense pas que c'était le point ici de Paul. Je crois qu'on fait fausse route lorsqu'on doit aller se prononcer là-dessus. Mais l'image qui est prise, c'est de ce terme qui était utilisé pour racheter un esclave. Quelqu'un se retrouvait dans une situation d'esclavage. C'était possible de payer un prix pour racheter son droit de liberté. C'est le même terme qui est utilisé ici. Et les premiers auditeurs de Paul, c'est comme ça qu'ils l'ont compris. Un droit de rachat afin que toi, tu sois déclaré libre de ta dette envers la justice. Alors, je vous relis le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés. Déclaré juste. Comment est-ce que Dieu qui est juste peut te déclarer, toi qui es injuste, moi qui suis injuste, gratuitement. C'est par le moyen du rachat qui est en Jésus-Christ. Rachat qui a été acquis par son sacrifice. Voyez-vous, la croix est un objet de scandale à celui qui croit que Dieu est un potentat capricieux, un despote machiavélique, un être qui n'est pas juste, mais qui veut juste être adoré par tout le monde et qui ne saisit pas que Dieu est la justice même. Mais quand je saisis que l'univers est soutenu par un être parfaitement juste et intègre, qui juge à chaque instant et qui jugera à la fin des temps parfaitement l'histoire de tous les hommes, de tous les êtres vivants, je réalise qu'il va y avoir un droit de justice à payer. Alors comment réconcilier la justice de cet être droit et intègre avec son amour? Parce que si l'amour est l'une des plus grandes vertus aussi, elle est en Dieu. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean dans une de ses lettres. Ce droit de rachat-là a été payé par Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Et cela est accepté simplement par la foi. L'autre terme qui est super important, propitiation. Un petit peu plus compliqué à saisir. Mais en même temps, je vous dirais, c'est super précieux pour toute la vie chrétienne. Et je vais essayer de l'appliquer, d'accord, pour que vous voyez comment ce n'est pas simplement le début de la vie chrétienne où on a besoin de méditer, de se réjouir de ça, mais pendant toute notre vie chrétienne. Au verset 25, il dit « C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. » Victime propitiatoire. Et le terme qui est utilisé ici fait allusion probablement, on ne peut pas avoir d'absolue certitude sur ça, probablement au couvercle, au couvert de l'Arche de l'Alliance. Alors, dans l'Ancien Testament, le symbole le plus important de cette alliance que Dieu traitait avec son peuple, c'était cette Arche de l'Alliance qui était en fait un coffre dans lequel avaient été déposés les 10 commandements, les tables de l'Alliance, le contrat d'alliance entre Dieu et Israël. Et sur ces tables-là, il y avait des anges qui étaient représentés. Et une fois par année, le souverain sacrificateur, après avoir fait un sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple, le sang de la victime était versé sur ce couvercle-là. Et c'est ce que le souverain sacrificateur allait faire lorsqu'une fois par année, à la Pâque, il entrait dans le lieu très saint, à l'intérieur du tabernacle, ensuite à l'intérieur du temple, lorsqu'il y a eu un temple, dans le lieu très saint, il allait verser ce sang-là afin de demander à Dieu, dans sa grâce, d'effacer, d'oublier entièrement tous les péchés de son peuple, les péchés du souverain sacrificateur qui venait représenter le peuple et de tout le peuple. Et donc, à ce moment-là, le peuple était assuré par la foi de la faveur de Dieu. Dieu lui redevenait favorable. Cette idée de victime propitiatoire, c'est cette idée que ce sacrifice-là me rend Dieu propice, m'assure que Dieu m'est favorable malgré le fait que je suis un injuste. Alors voyez-vous, dans l'Ancien Testament, déjà la grâce était annoncée parce que ce n'était pas en vertu de la perfection de la justice, la droiture du peuple ou de celle du souverain sacrificateur. Au contraire, par le fait même, le peuple lui-même était en train de confesser qu'ils étaient injustes, qu'ils étaient pécheurs, en posant cet acte-là. Et ce que Paul nous dit, c'est que tout ça était symbolique. Tout ceci annonçait, c'était un acte de foi qu'il posait, parce que le sacrifice des animaux jamais aurait pu faire ça. Les animaux sont pas eux-mêmes condamnés de péché, d'accord? Et donc, c'était symbolique, ceci préfigurait, annonçait un sacrifice parfait qui viendrait, où Dieu le Fils viendrait, prendrait la forme d'un homme, s'incarnerait, deviendrait homme comme vous et moi, vivrait une vie intègre devant Dieu, non pas comme la nôtre, mais pourrait s'offrir lui-même en sacrifice volontairement sur cette croix, présentant sa justice à Dieu, parce que lui était juste, mourant sur cette croix et Dieu vient agréer ce sacrifice-là. Et la preuve qu'on a que Dieu l'agrée, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Où Dieu a acquiescé, a accepté ce sacrifice-là parfait. Maintenant, où est-ce que ça s'applique dans la vie chrétienne, cette histoire-là? On peut comprendre assez facilement, lorsqu'on saisit l'Évangile, ce que ça vient changer pour devenir chrétien. J'arrête de m'époumoner à travers toutes sortes de processus religieux, de me perfectionner moi-même, de faire pénitence, d'essayer d'être cet être parfait, droit. Je renonce à ça. Je comprends que par moi-même, j'y arriverai pas et que c'est un acte de foi d'accepter tout simplement cette justice qui m'est offerte gratuitement. Mais voyez-vous, je le dis souvent, par défaut, notre mode par défaut, c'est religieux. On est des êtres qui, par défaut, retombons en mode religieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien, à un certain moment donné, dans sa vie chrétienne, dans son quotidien, commence à avoir des projets dans son cœur, puis décide qu'il veut se construire une carrière, veut se prendre en main, voudrait se bâtir un foyer, qu'il commence à avoir des rêves, tout ça, place ces projets-là devant Dieu, puis dit « Seigneur, viens bénir mes projets, je veux marcher dans tes voies, là, commence à prendre des passages, recommande tes projets à l'Éternel, hein, recommande ton sort à l'Éternel, tes projets réussiront, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Puis là, il commence à avoir des embûches, puis des embûches, puis des embûches, puis des embûches. Puis à un certain moment donné, je commence à me dire, « Mais coudonc, je n'ai pas la faveur de Dieu. Je n'ai pas la faveur de Dieu dans mes projets. J'essaie de construire mon couple, puis je m'investis, puis je travaille sur moi-même, puis on travaille ensemble sur nous, puis on essaie, mais c'est toujours des conflits, puis on dirait que j'y arrive pas, puis j'arrive pas à me développer des amitiés. Puis souvent, dans notre expérience, on a l'impression à quelque part qu'on n'a pas la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai pas ta faveur. » C'est complètement faux. Parce que Dieu ne t'a jamais accordé sa faveur en vertu de ce que tu as réussi à lui donner. Jamais! Jamais! À partir du moment où tu as cru en Jésus-Christ, Dieu t'a accordé sa faveur. Il t'est devenu propice, il t'est devenu favorable en vertu de ce que Christ a accompli. Et donc, lorsque j'ai des projets, puis je suis en train d'essayer d'avancer, puis mes projets ne se réalisent pas, puis c'est difficile, il y a toutes sortes de possibilités. Laissez-moi vous lire ceci brièvement. Quelqu'un écrit « Quand la teigne et le malheur te collent à la peau, chrétien ne doute jamais de la faveur de Dieu. Dieu pourra permettre des épreuves, même de dures épreuves dans ta vie, pour te transformer à la ressemblance de Christ, pour que tu manifestes sa gloire par ta persévérance à bien faire, pour inspirer des gens autour de toi à la foi, ou pour te montrer un autre chemin à prendre. Mais chrétien, ne doute jamais de la faveur de Dieu. Jésus-Christ a tout payé. Tu as la faveur de Dieu et ce qu'il te réserve sera bientôt manifesté. » Dieu t'est propice. Dieu t'est favorable. Pas parce que t'es bon, ça ne l'a jamais été. Parce qu'il a décidé de t'aimer à travers Jésus-Christ et toi, tu as décidé d'arrêter, d'essayer de performer pour satisfaire la justice de Dieu, tu as jeté toute ta foi, ton dévolu sur l'œuvre de Christ au lieu. Et donc, Dieu t'est favorable. Dieu t'est favorable. Dieu t'est propice. C'est assuré. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage-là, nous dit Paul au verset 24, c'est que c'est gratuit. Par un pur acte de foi, je décide d'accepter l'œuvre que Christ a faite à la croix. C'est terriblement difficile à accepter. Parce que pour devenir chrétien, il faut que tu réalises que tu es vraiment juste un crétin. Tu n'as pas le choix. Pour devenir chrétien, il faut que tu arrêtes, il faut que tu renonces, il faut que tu dises « Non, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas y arriver. » Puis tout en nous dit, non, fais juste me dire combien ça coûte. Tout le monde a un prix. Je peux acheter Dieu. Dis-moi combien ça coûte. Dis, je vous salue Marie, combien ça coûte? pénitence. Dis-moi combien ça coûte. Je vais faire des bonnes choses. Tu veux que je donne? Tu veux que j'aille faire du bénévolat? Tu veux que je fasse du bien? Dis-moi combien ça coûte. Je vais le payer. Tu vas voir, je suis capable d'y arriver. Je vais y arriver. C'est trop beau, ton histoire. C'est pas possible, cette affaire-là. C'est pas beau, mon histoire. C'est plein de sang, mon histoire. Il n'y a rien de beau là-dedans. Ce qu'il y a de beau, c'est à travers la mort sanglante de Christ, l'amour de Dieu pour toi. Oui, c'est beau. C'est abominable comme histoire. C'est abominable parce qu'il y a un Dieu saint qui a décidé de s'offrir lui-même pour mourir sur une croix pour des êtres injustes. Lui qui était juste est venu mourir là. Il a été fait péché à ma place afin que sa justice à lui puisse m'être imputée à moi et que moi, Dieu, décide de me regarder à travers la justice de Christ pour me voir moi comme étant juste. À partir du moment où je place ma foi en lui, je n'ai rien, 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 rien à faire pour être vu juste devant Dieu. J'ai été justifié par grâce, c'est gratuit. Et à partir de ce moment-là, oui, j'entre dans une nouvelle vie. Paul va nous aider à comprendre ça. Allez pas trop vite. Allez pas trop vite. Devant, c'est pas Paul. On va aller voir ça. Comment on fait maintenant pour vivre une vie nouvelle? Oui, mais Yannick, est-ce que tu es en train de nous dire que là, maintenant, on est libre de vivre dans le péché parce qu'on a été justifié? Allez pas trop vite. On va y arriver. C'est tout ça, l'épître de Paul aux Romains. Mais si vous allez trop vite là-bas, vous passez par-dessus la justification qui est gratuite. Absolument gratuite. Et grâce de Dieu, tout simplement. Et ce que Paul me dit, c'est que chacun d'entre nous, on a un choix à faire. C'est un acte de foi, c'est gratuit, mais on a tous un choix à faire. Je dois choisir où je vais placer ma foi. Chacun d'entre nous. Romains 3, 23, 24, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu dois choisir si tu vas continuer de croire en toi-même, t'appuyer sur toi. Et lorsque je dis ça, c'est vrai, avant d'embrasser la foi chrétienne, c'est faut que tu arrêtes de croire en toi pour devenir chrétien. Mais je vous le dis, c'est notre mode par défaut, croire en nous, être religieux. Faut que tu arrêtes de croire en toi pour grandir comme chrétien, voyez-vous? Ça continue cette histoire-là. Alors tu dois choisir où tu vas placer ta foi, en toi-même? Est-ce que tu vas décider de placer ta foi dans une autre divinité qui va être un petit peu plus accessible, que tu vas avoir conçu toi-même, qui va être un peu plus à ta mesure, avec qui tu vas pouvoir transiger un petit peu plus, puis dire, regarde, si je fais ça, c'est bon, tu es satisfait comme ça, j'ai atteint cette perfection-là. Ou est-ce que tu vas décider simplement, humblement, d'accepter que ta justice ne sera jamais satisfaisante pour Dieu et de placer ta foi en Jésus-Christ? Paul dit, « Montrez sa justice dans le temps présent de manière à être juste, que Dieu soit juste tout en justifiant ceux qui croient, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. » Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. C'est l'histoire d'un gars qui avait décidé qu'il allait faire le livre des records Guinness en faisant le plus grand exploit de tous les temps. Il était bien impressionné par les chutes Niagara. Il trouvait ça extraordinaire de voir ça. Puis, comme bien des gens, il s'est dit, hey, si je faisais quelque chose là, la terre entière connaîtrait mon nom. Je serais un autre blondin. Tout le monde connaîtrait mon histoire. C'est bon, il y en a qui ont décidé de faire la chute dans un tonneau. D'autres ont décidé de traverser la chute. Moi, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Plus grand que tout ça. Moi, je vais remonter la chute par moi-même. Je vais perfectionner ma nage. L'excellence absolue. Je vais être le saumon des saumons. Je vais remonter la chute du Niagara à force d'excellence, de technique, de nage incroyable. Si ton projet pour te présenter devant Dieu, c'est t'appuyer sur ta justice, tu ne feras pas le livre des records Guinness dans la présence de Dieu. Il y en a juste un qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Et tu as besoin, comme Blondin avait transporté ce monsieur sur le fil de fer, tu as besoin que Christ te prenne sur ses épaules, avec sa justice à lui. C'est la seule manière que tu vas te rendre de l'autre côté. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, le plus grand combat de ma vie, le plus grand combat de ma vie a été d'arrêter de me battre, Seigneur. Seigneur, le plus grand combat de ma vie a été celui de déposer les armes. Le plus grand combat de ma vie a été gagné ce jour où j'ai déposé les armes devant toi, j'ai arrêté de m'appuyer sur moi-même et j'ai décidé de placer ma foi en toi, Jésus-Christ. Et Seigneur, ce combat-là, je crois que c'est aussi une grâce. Je crois que devenir chrétien, c'est une grâce que tu opères en nous. C'est toi qui donnes la foi, Seigneur. Je veux invoquer ta grâce pour chacun d'entre nous, Seigneur, dans cette salle. Pour celui qui est encore en train d'essayer de remonter les chutes du Niagara à force d'excellence, de travail sur soi, Seigneur. Pour te prouver qu'il pourra satisfaire ta justice, Seigneur, je prie que tu lui accordes la grâce de déposer les armes, de s'humilier devant toi, de réaliser que c'est complètement farfelu, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui, comme moi, ont cru, ont connu ce jour glorieux où ils se sont reconnus incapables et ont compris qu'en toi, maintenant, ils pouvaient trouver grâce. Mais Seigneur, c'est une lutte quotidienne pour nous de rester là dans cette grâce, Seigneur. Être convaincu chaque matin quand je me lève que j'ai ta faveur, Seigneur, et que je n'ai pas essayé de mériter tes bontés, mais que je sais au fond de mon âme, Seigneur, que tu m'aimes parce que tu as donné ton Fils. Que lorsque j'ai un conflit avec un frère, avec une sœur, il n'a pas à gagner ma faveur parce que tu as payé pour sa faute, son péché aussi, Seigneur, et que notre réconciliation va se trouver là aussi à la croix en acceptant que c'est toi qui as payé pour lui comme pour moi, Seigneur. Oh, apprends-nous, Seigneur Jésus, à vivre à la lumière de l'Évangile. Apprends-nous, Seigneur, à nous approprier ce trésor incomparable qui libère l'âme humaine, qui libère le cœur, qui libère les relations, qui libère notre communion avec toi, qui remplit le cœur d'espérance, de foi, de joie, de confiance, Seigneur, que tu es avec nous à cause de ton sacrifice, Jésus. Apprends-nous à saisir, Seigneur, que tu nous as accueillis en Jésus-Christ. Apprends-nous à regarder le monde qui nous entoure avec ce même regard d'amour, être prêt à accueillir nous aussi, Seigneur, parce qu'à chaque instant, on se rappelle qu'on a été accueilli en toi, Seigneur. Et que ce message de grâce soit là sur nos lèvres pour qu'on puisse bénir, Seigneur, et accueillir qui que ce soit qui se présente ici avec cette même grâce, avec ce même amour, Seigneur. Fais-nous grandir en toi, Jésus. Amen.